Bonsoir Lisa Guez.
Bonsoir.
Et il y a aussi Valentine Krasnochok qui est là.
Bonsoir.
On vient de voir au Théâtre de la Croix-Rousse une pièce qui s'appelle Les femmes de barbe bleue. Alors c'est une pièce donc, qui a été coécrite par Valentine et mise en scène par Lisa, qui a beaucoup de succès. Elle se joue depuis une semaine. C'était la dernière ici au Théâtre de la Croix-Rousse. Et c'est une pièce qui est inspirée du conte de Barbe Bleue et qui, on l'a trouvé, était écrite de façon assez subtile et intelligente, puisqu'il n'y a qu'à la fin véritablement qu'on comprend où vous voulez en venir, presque.
Vous trouvez qu'il n'y a qu'à la fin qu'on comprend où on veut en venir ?
Toutes les choses se mettent en place, peut-être.
Alors, on n'a pas particulièrement pensé que c'était à la fin que tout se comprenait, parce qu'en fait, la structure du conte, elle est présente et répétée en fait, dans toutes les histoires de chacune des femmes qui apparaissent sur le plateau. Et en fait, chacune se retrouve confrontée avec ce désir, avec cette espèce d'injonction contradictoire, qui est qu'on leur donne une clé et qu'on leur dit de ne pas ouvrir la porte. Et évidemment, à la fin, ça trouve une résolution, puisque la dernière femme, la femme qui est incarnée par Valentine Krasnochok, justement, qui est celle qui ouvre la porte en dernier, réussit à se libérer, à trouver un moyen de libération par rapport à Barbe Bleue. Mais toutes les femmes, les unes après les autres, se retrouvent confrontées au même dilemme. Mais comme chacune a des fragilités, a des personnalités, a des univers différents, bah, ça nous emmène à chaque fois dans une problématique autour de l'emprise, à chaque fois différente.
Valentine, peut-être, oui, rebondir là-dessus.
D'abord, rebondir sur l'idée de la coécriture, en fait, c'était pas vraiment une coécriture, parce qu'en fait, c'est vraiment parti d'improvisation qui ont été faites par les comédiennes. Au début, moi, j'étais pas là en tant que comédienne, mais les comédiennes avaient des directives par Lisa. Elles incarnaient chacune des femmes mortes de Barbe Bleue. Elles devaient juste réfléchir sans écrire à comment elles avaient rencontré Barbe Bleue, comment c'était de vivre avec lui, voilà, se créer un peu un univers. Et après, elles passaient sur le plateau et elles improvisaient leur histoire. Et en fait, moi, je prenais en note. Et puis après, j'essayais de créer aussi parfois des ponts entre les récits, etc. Voilà, mais c'était plus une mise en forme de ce qu'elle, elle faisait sur le plateau. Et avec des allers-retours entre moi, ce que je reprenais en note, on retournait sur le plateau. Après, elle reprenait leur texte, elle réécrivait des choses. C'est comme ça qu'on a créé les situations. Voilà.
Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, donc en fait, dans la pièce, les prénoms sont les prénoms des comédiennes qui jouent. Donc effectivement, chacune a imaginé son histoire, j'imagine, en fonction de son caractère à elle, ou comment elle aurait agi dans la vie, peut-être.
Oui, c'est ça, c'était en fonction de leur caractère. Alors, c'est pas du tout des témoignages qu'on a recueillis, ou même des témoignages d'histoire personnelle, mais on est parti d'intuition, peut-être de façon de réagir, de choses un peu qu'il y avait en nous, de problématiques voilà, qu'on a développées. Et après, il s'agissait, avec Lisa, que chacune approfondisse son univers. Et pour certaines, on a produit des espèces d'interrogatoires, comme au commissariat, ou comme chez le psychanalyste, des échanges, pour savoir un peu tout ce qu'il pouvait y avoir derrière et creuser les récits. Voilà, c'était comme ça que ça marchait.
La figure de Barbe Bleue, chacun a un peu sa vision de qui est Barbe Bleue. Et d'ailleurs, dans l'actualité, on peut imaginer des Barbes Bleues dont on parle aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais savoir pour chacune de vous, qui est Barbe Bleue ou qu'est-ce qui, pour vous, est Barbe Bleue ?
Oui, en fait, nous, on a plutôt cherché à réfléchir aux barbes bleues qu'il y a à l'intérieur de nous, enfin, comment chacune pouvait éventuellement incarner son propre barbe bleue, comme vous voyez sur le plateau. Barbe bleue n'est pas présent, il n'est pas représenté. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si c'est le même homme à chaque fois, parce qu'il est décrit de façon à chaque fois très différente, en fait. Chacune a son barbe bleue et chacune doit se libérer d'une domination ou d'un rapport à la domination différemment. Donc tout ça pour dire que par rapport à l'actualité, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'était plus la complexité de figures et de problématiques dans lesquelles on peut être empris, plus que de créer un profil type, en fait.
J'ai cru comprendre que vous vous étiez inspiré d'une lecture de Piccola et Pintes.
Oui, c'est ça.
Qui était donc Jungien, je pense, d'obédience. Et du coup, le barbe bleue devient le prédateur en soi, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est une psychanalyste qui utilise les contes avec ses patientes notamment, et dans son livre « Femme qui court avec les loups », elle décrit comme ça toute une série de contes qu'elle utilise, qu'elle réécrit en plus à sa façon assez particulière. Alors elle, du coup, son interprétation, c'est que les figures du conte peuvent être les instances psychiques d'une même personne. Donc voilà, ça c'est inspiré des théories de Jung. Donc ça nous a aussi habité.
Alors, c'est un peu ça que je percevais, moi. Voilà.
Mais en fait, ça nous a habité en arrière-plan, parce que notre angle d'approche, en fait, notre problématique, c'était explorer la complexité du désir féminin, sa part sombre, sa part obscure, pourquoi est-ce qu'on peut être attiré, parce qu'il y a vraiment ça dans le conte. Les jeunes femmes, elles savent qu'il y a eu des histoires bizarres avec les femmes précédentes qui ont disparu. En plus, ce type est affreux, il fait peur. Donc en fait, elles n'ont pas beaucoup de raisons de se marier avec lui. Ça peut être un peu l'argent, mais c'est pas complètement ça qui motive dans le conte. Donc il y a quelque chose, voilà, et nous on voulait interroger un peu ça, pourquoi préférer le bad boy au gentil mec sympa, voilà, c'est des questions aussi comme ça qu'on voulait soulever.
Ça, oui, et puis ça interroge aussi l'ombre, parce qu'on parle de psychanalyse, mais l'ombre justement qu'on peut trouver chez quelqu'un, on ne l'aperçoit pas au tout début, mais elle prend de plus en plus de place avec le temps.
Oui, là, la question de l'ombre aussi qu'on peut trouver chez Jung et tout, en effet, ça peut s'envisager comme ça.
Quelque chose qui attire comme ça de façon inconsciente et comme un piège qui peut se refermer à un moment donné, en fait.
Ouais. Donc, il y a une part de quelque chose qui veut le mal pour nous en nous. Quelque part, ça pourrait être aussi un peu ça qu'on pourrait dire même.
Dans le conte, quelque chose qui a été important pour nous, c'est que dans le conte, il y a des signes annonciateurs que Barbe Bleue est quelqu'un de dangereux. C'est dit dès le début que toutes les femmes s'enfuient de devant lui quand il apparaît et qu'il y a des rumeurs sur lui comme quoi il aurait épousé des femmes et qu'elles auraient disparu. Donc en fait, tout est déjà dit. Et malgré ces rumeurs et malgré ces choses inquiétantes, la jeune fille tombe dans son piège. Donc c'était ça aussi qui était assez intéressant, c'est que Barbe Bleue est donnée tout de suite dans le conte comme quelqu'un de potentiellement dangereux et potentiellement inquiétant. Donc c'est quelque chose qui est donné dès l'annonce et qui en fait est une donnée de base du problème, ou d'une donnée de base du désir.
Vous avez aussi ajouté dans la mise en scène de la sororité, puisque finalement, les femmes sont toutes dans le même bateau et vont essayer de s'entraider. Et du coup, c'est comme si les scènes sont recommencées pour essayer de trouver une autre solution pour que, quelque part, elles s'opposent ou elles arrivent à se libérer ou à trouver une autre façon de réagir.
L'idée, c'est que quand on entre dans une emprise ou quand on entre dans un mécanisme où on est piégé, par soi-même et par l'autre, on ne peut pas forcément s'en sortir tout seul et que en fait, c'est que collectivement qu'on peut trouver des solutions. Moi, dans les directions que je donne aux filles quand on se retrouve et tout, de se dire que tout le temps qu'en fait, elles ne peuvent s'en sortir que collectivement et qu'en fait, la libération de chacune peut être une libération pour toutes en fait. C'est comme un match qu'elles jouent. Enfin, y a quelque chose de très collectif dans le combat qu'elles mènent, même si chacune de leurs problématiques est très singulière en fait. Je pense aussi que ça peut parler d'une certaine façon des générations de femmes qui chacune ont lutté les unes pour les autres. Sur les échecs des précédentes, on construit les réussites des générations futures. Voilà, donc dans cette idée-là, peut-être la dernière femme de Barbe Bleue, ce qu'on voulait un peu raconter, même si c'est, je ne sais pas si ça se comprend forcément pour les spectateurs, mais c'est que c'est aussi parce que toutes les ombres des victimes sont derrière elles ou avec elles dans le moment de la dernière lutte.
Oui, effectivement, je rejoins totalement, mais sur un plan plus intérieur, du coup, j'avais noté devenir libre du prédateur, on en parlait tout à l'heure, apprendre de ses erreurs, ressusciter les zones de lâcheté en soi. Je ne sais pas si ça peut vous résonner chez vous.
Ressusciter les zones de lâcheté en soi.
De naïveté, de...
Enfin... En tout cas, il y a quelque chose de l'idée de l'intuition, où voilà, c'est pas forcément quelque chose d'appris, mais un peu quelque chose dont on se souvient, voilà, de connaissances qui peuvent remonter et qui peuvent aider... à avancer, oui.
Oui, apprentissage peut-être justement de l'intuition saine.
Oui, ça peut être une piste.
Dans la version de Pinko Lestes, en tout cas dans son étude, moi ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu ça et qui m'avait vraiment fait fondre en larmes et touché pendant des heures après, c'est que la femme de Barbe Bleue, quand elle ouvre la porte et qu'elle voit toutes les femmes mortes, c'est comme si elle voyait ses propres désirs, et sa propre vie libre de femme qui avait été assassinée. C'est comme si c'était des parts d'elle qui avaient été assassinées et mises au placard pour satisfaire aux prédateurs. Donc en fait, quand elle découvre toutes ces parts d'elle, toutes ces parts de liberté assassinées, elle tombe dans une forme de sidération et de dépression dont elle peut sortir soit par le haut en reprenant courage, en reprenant force. Mais c'est en fait une lutte psychique. Soit elle se fera complètement dévorer par la connaissance du fait qu'elle a renoncé à toutes ses parts de vie. Personnel.
Et ce qu'on a d'ailleurs repris du conte version Clarissa Pinko Lestes, c'est que c'est pas la clé qui est tachée du sang pour la dernière femme, parce qu'elle est tombée dans le sang des femmes, et c'est ça qui est dans le conte de Perrault, c'est que la clé saigne. Donc c'est encore plus puissant. Il y a un truc qui déborde de vie. À partir du moment où elle est rentrée dans cette pièce, qu'elle a vu toutes ses parts d'elle-même enterrées, la clé saigne, elle est pleine de vitalité, et elle a beau la cacher dans des torchons, dans des vêtements, elle raconte, elle, Clarissa Pinko Lestes, ça déborde de partout, et c'est évident, maintenant, elle ne peut plus le cacher, elle doit vivre avec cette nouvelle connaissance d'elle-même. Donc ça, c'était très intéressant. Et même si c'est quelque chose qu'on perçoit forcément quand on voit la pièce, mais nous, ça nous a nourri ces idées-là. Et ce texte était très fondateur pour nous. Donc c'est vraiment un livre que je conseille, particulièrement actuellement, d'être relu, « Femme qui court avec les loups ». C'est passionnant.
Retrouver sa part aussi d'animalité, de liberté, de sauvagerie, mais dans le bon sens du terme. Ouais.
Oui, elle parle beaucoup dans ce genre de terme, Clarisse.
On va pas raconter la fin, mais ça m'a évoqué un peu Thelma et Louise aussi, un peu cette idée.
On peut être dans des esthétiques Thelma et Louise, Tarantino aussi, on était pas mal dans des esthétiques comme ça, de vengeance et de femmes qui se battent.
Ouais. De jouissance cathartique de la libération par la vengeance, qu'on a dans le cinéma américain, hollywoodien, à certains endroits aussi.
Peut-être en conclusion, on peut dire que effectivement, Barbe Bleue, c'est un conte assez sombre, mais voilà, en allant voir la pièce, on s'amuse beaucoup et c'est très drôle. Et effectivement, même pour le public, c'est cathartique.
C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on essaye de provoquer parce que c'est trop difficile, cette thématique. C'est quand même extrêmement sidérant, violent, et ça pourrait aussi être trop pathétique. Donc pour que la pensée puisse se faire et pour qu'on puisse s'en sortir par la joie, on a essayé de moduler par le rire, voilà, d'enchaîner les moments d'émotion et les moments de jamais rentrer trop longtemps dans l'émotion, de jamais rentrer trop longtemps dans le rire et de faire de la dialectique avec ça en fait.
Merci beaucoup. Et bien, une suite peut-être pour cette pièce, elle voyage déjà depuis quelques années.
Ouais. On continue à faire voyager la pièce encore cette année. On reviendra à Lyon pour les Nuits de Fourvière, à l'ENSAT, début juillet. Et puis l'année prochaine, on ira sans doute vers Grenoble. On aura une douzaine de dates à Paris, au Théâtre Paris-Villette en mars. Et puis on voyage. La prochaine fois, on sera à Tourcoing au mois de janvier. On a beaucoup de chance de pouvoir reprendre le chemin des scènes après tout ce qu'on a vécu ces derniers mois.
Longue vie à cette pièce, en tout cas, elle le mérite. Et puis à très bientôt donc sur les routes. Merci.
Merci beaucoup.